se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules, aujourd'hui avec un trio composé de l'avocate Marie-Anne Soubré, du professeur d'histoire-géographie, monsieur Kevin Bossuet, nous sommes avec Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, 32-16 pour être avec les GG, avec les grandes gueules. Vous pouvez retrouver aussi en instantané toutes les vidéos, les interventions des grandes gueules qui sont mises sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. C'est fait par notre community manager Alexandra Bischoff et vous pouvez les commenter bien sûr avec Kevin, avec Marie-Anne et avec Kauter. On va parler maintenant du cas d'Adrien Catanas.
RMC, les grandes gueules.
Parce que c'est l'épouse d'Adrien Catanas qui a continué de livrer sa version de ce qui se passe dans leur couple. Et selon sa version, c'est accablant pour Adrien Catanas.
Oui, on a un couple qui se déchire devant tout le monde par communiqué interposé. L'ex-femme, enfin je dis l'ex, non, ils sont toujours mariés. Donc la femme d'Adrien Catanas est sortie de son silence. Il y avait eu un communiqué, un communiqué conjoint. Là, elle fait un communiqué dans son coin pour expliquer que, en fait, elle était depuis des années victime de violences psychologiques, de colère de la part du député avec qui elle vit. Elle remet donc en cause la thèse que défendait son mari, Adrien Catanas, à savoir une simple gifle. Et d'ailleurs, certains de ses amis insoumis, comme Manuel Bompard, expliquaient sur les plateaux télé, oui, vous comprenez, il a fait ça une fois, on ne peut pas comparer Adrien Catanas avec des hommes violents à répétition.
La preuve.
Et c'était d'ailleurs une façon peut-être de minimiser ce qu'il avait fait. Alors, si l'on en croit sa femme, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais attention, Adrien Catanas a rejeté ses accusations par le biais de son avocate. Donc on en est là, on assiste un peu quand même, moi je trouve ça assez gênant, à un déballage d'un couple. Les insoumis, pour l'instant, disent Adrien Catanas, on va l'exclure du groupe, il ne peut plus travailler avec nous, et on attend ce qui va se passer le 13 décembre, puisque la justice est saisi, il va plaider coupable devant le tribunal et on verra à ce moment-là, c'est ce que disait notamment Émeric Caron ce matin chez Apolline de Malherbe.
Kauter, est-ce qu'il peut rester député ?
Non, déjà, ça c'est la première chose, je ne suis pas porter l'écharpe quand tu frappes ta femme, mais pour en revenir à ce que tu disais sur Bompard, oui, il minimisait.
Ou alors qu'il ne savait pas précisément ce qui se passait dans le couple.
Oui, mais de quoi tu te mêles en fait ? Parce que justement, tu n'es pas dans le couple et rarement, enfin, moi, je rappelle ici que j'étais travailleuse sociale. Et toutes les femmes que j'ai accompagnées, que j'accompagne aujourd'hui, jamais tu te prends qu'une seule gifle. Ça commence par une gifle, mais avant d'arriver à la gifle, il y a souvent des violences verbales, tu vois, qu'on ne considère pas comme des violences verbales légalement. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs considéré, si c'est reconnu comme des violences verbales. Tu nous le diras tout à l'heure, Marianne. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus ce que j'allais dire parce que tu vois, c'est.
Donc, est-ce qu'il peut rester député ?
Non, il ne peut pas rester député et ce n'est pas gênant, en fait. Ce n'est pas gênant parce qu'en fait. La chance, entre guillemets, qu'on a, c'est que là, cette dame, elle se défend, elle prend la parole et que son partenaire est un personnage public. Mais il y a des milliers, voire des millions de femmes dans notre pays et ailleurs qui sont battues et qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont pas les moyens de se défendre. Oui, je porte plainte.
Là, je parle pas des plaintes, je parle du déballage médiatique. C'est pas la même chose.
Mais elle répond.
Mais je l'accuse pas. Hein, dis, d'une manière générale, c'est gênant d'être pris à partie dans un déballage d'un couple en fait. Voilà.
Tu n'es pas obligé d'être pris à partie. Enfin, tu n'es pas obligé de répondre. Tu vois ce que ben non,
mais t'es compliqué. Il y a les avocats.
Ouais, mais t'es pas obligé de répondre. Mais moi, je trouve qu'elle rend service malheureusement à toutes ces femmes qui elles sont dans l'obscurité et dont les plaintes ne sont pas toujours reçues, pas toujours traitées et qui aboutissent pas parce que le mec est puissant, parce qu'il a des relations, etc., etc.
Dire que c'est gênant, c'est l'écran de fumée habituel. J'ai envie de dire qui est en train de nous jouer d'ailleurs la France insoumise parce que en fait, ils essayent d'amalgamer et de dire non, mais regardez, il a plaidé coupable, il y aura donc la CRPC. Je rappelle que la CRPC concerne une seule gifle, un fait isolé.
Du CRPC, voilà. C'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Donc, mais attendez. Donc, on ne va pas non plus dire ah oui, mais il n'y a eu qu'une seule gifle, etc. Parce qu'en réalité, là, on a un fait isolé. Et en fait, parce que Adrien Quatennens a voulu dire que ça ne concernait que ça, que finalement il avait eu un moment d'égarement, elle a répondu. Et sa réponse
est accablante.
Et non seulement accablante, mais démontre effectivement que c'est un système. Je veux dire, un couple normal.
Il le nie.
Oui, mais un couple normal, il n'y a pas de gifle. Je vais te dire. Ouais. Quand il y a une gifle, c'est que, réfléchis un peu, moi, dans ma vie, personne ne m'a jamais mis de gifle. Non,
je veux dire, le contraire, il est présumé innocent.
Non, mais la gifle, elle arrive pas comme ça, c'est ce qu'elle veut te dire.
En fait, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes victimes de violences. Mmh. C'est un système, c'est une spirale. Et en réalité, la gifle est en général même plutôt la fin. J'ai envie de te dire. Tout avant, tu as les violences psychologiques, c'est-à-dire du dénigrement, et c'est tout ce qu'elle décrit, c'est-à-dire le dénigrement, les cris, etc. Et heureusement, alors que pendant des années, on nous disait que les seules violences conjugales, c'était les coups, aujourd'hui, les violences conjugales, c'est aussi les violences verbales, les violences psychologiques, etc. Mmh. Et donc là, moi, je ne sais pas si elle l'a fait, mais j'espère qu'elle va le faire.
C'est sa version.
Oui, mais il faut déposer plainte.
Dans un rien, elle a déjà choisi son camp. Moi, attention, c'est sa version.
Je choisis pas mon camp.
La gifle, il l'a reconnu. Il y aura plaidé coupable, il sera condamné.
Mais la gifle, elle est la conséquence de quelque chose. C'est ce que te dit Marianne.
C'est rien, c'est pas dans le couple. C'est là.
Non, c'est pas un problème. Non. Et je vais te dire justement, quand toi tu parles de couple, etc. C'est un fait de société, les violences conjugales.
Tous les couples sont pareils.
Non, je te parle de violences conjugales. C'est un fait de société.
Oui, d'accord.
C'est pas uniquement. Si tu veux,
vouloir le. Avocate, pardon. Chaque histoire.
Je suis aussi militante féministe. Oui, je suis aussi très attachée aux femmes victimes de violences.
En tant qu'avocate, souvent ici, tu nous avais dit chaque affaire est différente.
Oui.
Il faut individualiser les peines.
Absolument. Mais non,
elle se dit que la gifle est la conséquence de plusieurs violences morales.
Attention.
Ce qu'elle décrit. Et il faut qu'elle dépose plainte. Et j'imagine qu'elle a déposé plainte pour. Ça, et on verra ce que ça donne. Mais ce qu'elle décrit, et je ne dis pas que ça soit vrai ou pas, je dis que ce qu'elle décrit, c'est le schéma habituel de ce qu'on voit dans les cas de victimes. Ça ne veut pas dire qu'il serait coupable sur le reste, etc. Ce que je dis, par contre, c'est que quand la France Insoumise vient nous dire c'est une gifle isolée, etc., je dis attention, parce que je déteste la façon dont la France Insoumise aujourd'hui minimise, alors qu'ils sont soi-disant féministes, etc.
Ça,
etc.
C'est autre chose.
Ils
sont pris à leur propre piège.
Mais c'est ça, le fond de l'histoire.
Les professeurs de vertu sont rattrapés par leur propre.
Absolument. Et j'ai envie de dire, bien fait pour eux, mais à un moment, il faut quand même entendre que ce qu'elle dit correspond quand même beaucoup à un schéma habituel. Voilà.
Écoutez, moi, ça me gêne d'assister à ce déballage médiatique. Voilà. Je veux dire que moi, en tant que électeur, en tant que contribuable, en tant que Français, en tant que citoyen, moi je suis désolé, ça me pose un problème. Comme ça me pose un problème que M. Quatennens soit payé tout en ne réalisant pas son travail au sein de l'Assemblée nationale. Alors après, il y a un fait qui est une gifle, qui était reconnue par M. Quatennens. Il faut absolument qu'il soit condamné pour cela, parce que c'est inacceptable, en effet, de lever la main sur une femme, surtout quand c'est la sienne. Mais après, ce que dit la femme de Monsieur Quatennens, moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Monsieur Quatennens est présumé innocent. Absolument. J'attends juste le procès, j'attends que les juges se prononcent, j'attends que l'enquête mette en avant les faits réels, et c'est tout ce qu'on demande en fait.
Et
donc,
pas
voilà.
De militantisme.
Oui, mais... Et qu'il n'y a pas de militantisme.
Oui, mais moi je suis absolument d'accord avec tout ce que dit Kevin, mais quand tu commences à dire oui c'est du déballage de la vie privée, je vous rappelle femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint.
C'est pas assez médiatisé,
c'est le rapport,
de comprendre ce qu'on dit.
C'est que la femme victime de violence, c'est un phénomène de société.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça.
Moi, je ne participerai pas, si tu veux, à mettre sous le tapis en disant c'est leur vie privée. C'est justement parce que les voisins n'appellent pas. C'est parce que les voisins n'appellent pas, c'est parce que les gens ne disent rien que les femmes meurent. Non, mais c'est ça la
vérité. Que ce soit un phénomène de société, c'est une évidence. Mais là, on est dans un cas qui est singulier avec un député. On est en train de prendre un cas précis pour en faire une généralité. Oui. Alors que Marianne, tu n'as de cesse de dire qu'en effet, il ne faut pas prendre un fait divers pour les généralités.
Est-ce que je peux vous rappeler qu'une gifle.
Mais là, c'est la militante qui parle.
Non, c'est l'avocate aussi. Est-ce que je peux vous rappeler qu'une gifle. Non, mais excusez-moi.
Parce que la présomption d'innocence n'est pas respectée.
Mais excusez-moi, on vit dans un monde qui est.
Je ne parle pas de Quatennens. Je parle des violences conjugales et je parle. Oui, une gifle peut te tuer. Si tu tombes mal, si tu tombes mal avec la gifle, tu peux mourir. Donc il y en a marre.
Une généralité
non,
sur un cas.
La généralité, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que chaque fois qu'on dit, je ne veux pas savoir, c'est leur vie privée. Il y a des femmes qui meurent pendant ce temps-là.
Mais
c'est exactement ce que vous dites.
Non, on est dans les
Mais
on fait ce que les Américains font. On est dans le grand déballage.
À mon avis, ça ne fait avancer rien du tout.
On
est dans un déballage médiatique et sur les réseaux sociaux de tout. Donc je ne vois pas ça.
Qu'est-ce qui empêche dans cette affaire Madame Quatennens d'aller voir la justice, de dire
elle a été attaquée médiatiquement, donc elle répond médiatiquement.
Oui, elle le répond médiatiquement. Et moi, ce qui me gêne, c'est la médiatisation aussi bien de sa part, puisqu'il manipule visiblement. Si l'on en croit sa femme, si sa femme a raison, il a manipulé tout le monde en disant.
Moi, ce qui me
gêne. Attends, je termine, d'accord.
Termine.
Merci. Donc, soit il a menti, donc il a manipulé tout le monde en faisant croire qu'il n'y avait qu'une gifle. Donc, c'est du déballage médiatique et c'est un manipulateur d'opinion. Et elle-même aussi, poussée sans doute par ses avocats, elle rentre dans le jeu. Alors qu'au départ, elle ne voulait pas, justement, je trouvais très digne. Elle faisait confiance à la justice.
Ça
et d'ailleurs, elle avait raison de faire confiance à la justice puisque le 13 décembre, il y a un procès. On peut reconnaître que ce déballage médiatique n'a rien à voir avec l'affaire.
Donc
je pense qu'au contraire, ça pollue l'affaire.
Qui est attaquée et battue, qui a au moins reçu une gifle, qui est toujours, parce que nous, c'est notre travail, qui est toujours la conséquence de plusieurs violences avant. Une gifle, c'est pas tu te lèves le matin, tu mets un taquet à ta femme.
Déjà jugé.
Excuse-moi. Ouais, excuse-moi. Jamais tu te lèves et tu mets une gifle à ta femme comme ça gratuitement. Voilà. Ça découle d'une relation dans le couple où il y a des violences, où il y a de la dénigration, où il y a de la manipulation, des pervers narcissiques, etc. Excuse-moi. Et donc toi, ça fait, je crois, 3 ou 4 mois qu'on parle de ça. Ça gêne personne que Bompard l'ouvre, que tout le monde l'ouvre, ça gêne personne. Mais quand c'est la victime qui répond.
Tu rigoles, on en a parlé.
Quand c'est la victime qui répond et qui donne, elle, sa version des choses, ça vous interpelle, vous trouvez que c'est indécent. Excusez-moi, les gars.
Mais Bompard est indécent aussi.
C'est ceux qui prennent le parti sans vivre dans. Mais moi, que la victime s'adresse à son agresseur et qu'elle lui réponde par voie de communiqué, c'est tout à fait normal.
Non, mais évidemment que les violences conjugales, c'est quelque chose d'inadmissible. Il faut évidemment lutter contre. D'ailleurs, je remarque aussi qu'il y a des femmes qui tapent leur mari.
Oui.
Ça existe aussi.
Donc c'est pas
20% des cas. 20%
des cas. Donc c'est pas 20%, mais le mettre en avant. Et de manière générale, Monsieur Quatennens a reconnu une gifle. Il doit être condamné pour cela. Oui. Après ce que dit Madame Quatennens, moi je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cela doit être jugé. On le voit par exemple dans les affaires de pédophilie. Je veux dire, parfois on a accusé quelqu'un d'avoir été pédophile. Tout le monde lui est tombé dessus. Il était déjà coupable. C'était une honte, etc. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il a été innocent et sa vie était brisée. Donc moi, je veux juste qu'on respecte la présomption d'innocence, qu'il y ait un vrai procès. Et voilà, c'est tout.
Sauf que là, c'est une réponse qu'elle fait.
Voilà, c'est ça. Absolument.
En fait, c'est une réponse. Puisque lui, il avait écrit, reconnu la gifle. Et derrière, il avait dit que ça s'inscrivait dans un contexte d'agressivité mutuelle. Elle a pris du temps, simplement. Et entre-temps, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont parlé sûrement à sa place et que là, elle se dit c'est pas possible. Il est temps aussi que je rétablisse ma part de vérité dans cette histoire. Alors,
juste un mot, moi je n'en sais rien et évidemment, je respecte la présomption d'innocence d'Adrien Quatennens. La seule chose que je veux dire, c'est que chaque fois qu'on dit que s'agissant de violence conjugale, c'est du déballage de vie privée, on fait ce que font les voisins, c'est-à-dire quand ils entendent des cris, ils appellent pas la police, c'est-à-dire je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, et donc
c'est la même chose.
Les violences conjugales ne sont pas dans la sphère privée, c'est un phénomène de société. Il faut que tout le monde se réveille. Si on n'était pas tous réveillés, on n'aurait pas une femme qui meurt tous les 2 jours et demi.
Non, mais
la vérité, c'est qu'à force de dire que c'est de la vie privée,
c'est pas
les
la
femmes
même chose.
Meurent.
Mais si, le mec, il dit je suis une connasse à sa femme, je lui mets un taquet à la figure, je suis désolée.
Ce n'est absolument pas la même chose. Dans le cas que tu as évoqué, Marianne, là, c'est non-assistance à personne en danger. Là, on
est d'accord qu'on parle de victime de violence.
violence parce qu'il reconnaît
que c'est habité. Tu es d'accord que la justice va juger le truc, je vois pas pourquoi tu t'énerves. Mais la justice, je comprends pas pourquoi tu t'énerves.
Mais parce que vous dites qu'elle a pas le droit de répondre.
Non,
parce que
j'ai dit non, enfin
c'est pénible. Et vous dites que c'est la vie privée.
Non, mais moi je trouve que ce déballage, je le mets dans, c'est un déballage.
C'est bien ça le problème.
Ne fait pas avancer les choses. On a un couple qui se déchire sous nos yeux, ça ne fait pas avancer les choses.
Non, on a une femme victime puisqu'il a reconnu sa responsabilité. Mais non, mais
répondre. Non, mais de toute façon, t'es obtus, t'es dans ton truc. Je te dis simplement, c'est que la justice fait son boulot puisque le 13 décembre, il va plaider coupable et il aura une amende. Laissons faire la justice. Le reste, c'est du déballage. C'est du déballage médiatique manipulé par tout le monde, aussi bien les insoumis comme Bompard que les avocats qui sont dans un jeu médiatique. Voilà, qui sont invités d'ailleurs sur les plateaux.
Mais c'est pas ce qu'on dit. Tu mets le taquet à ta femme.
Pas plus bête que tu ne l'es.
Excuse-moi. Et demain, tu re-sièges à l'Assemblée, tu refais des lois.
Ça, c'est autre chose. C'est le débat. Je rappelle que c'est le débat qu'on a porté.
Kauter, on est dans un état de droit. Donc, il faut qu'il y ait une sanction qui soit légale, une sanction donnée par un juge. Point final, c'est tout ce qu'on dit avec Olivier.
C'est un phénomène nouveau que de juger les hommes qui battent leurs femmes, parce que je te rappelle qu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était normal. Ouais. C'était dans les mœurs. Quand tu frappais ta femme, comme le dit le proverbe.
Et tant mieux qu'il y ait des condamnations, c'est très bien.
Pourquoi, mais elle le savait. OK? Donc, c'est nouveau. Malheureusement pour nous, mais bon, ça avance doucement, mais ça avance. Que des hommes soient mis en face de leurs responsabilités. Et je trouve qu'en 2022, qu'un homme puisse porter l'écharpe et se permettre de faire des lois de la République.
C'est la question qu'on se pose.
C'est pas à nous de remplacer les juges. Non, c'est tout ce qu'on dit.
On est là pour faire pas de fausses propositions. Ça nous concerne. C'est nous qui le payons, ce mec, quand même, 6000 balles par mois. OK?
D'accord.
Donc moi, je ne suis pas d'accord.
Donc s'il est condamné le 13 décembre, il doit quitter l'Assemblée.
Ben moi, je considère qu'un mec. Donc je réponds. Ouais. Je considère qu'un gars, peu importe qu'il est. Surtout un représentant de la.
Rien ne l'empêchera de siéger parce qu'il va être condamné sans doute à une amende, mais il pourra toujours rester député.
Mais c'est ça le problème.
Ah ben on verra ce qu'en dit Hervé.
Tu ne les respectes pas. Parce que tu ne respectes pas la loi quand tu frappes ta femme.
Non. On verra ce qu'en dit Hervé dans un instant. Il est dans les Hauts-de-Seine, il est informaticien. Selon lui, Adrien Quatennens n'a pas plus à démissionner que certains autres, lesquels, bah on va en discuter avec lui. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, on parle du cas d'Adrien Quatennens après ce qu'a dit sa femme dans le contexte d'un divorce. Adrien Quatennens avait dit oui, ça a été une gifle dans un contexte de divorce, d'agressivité mutuelle. Faux, a répondu son épouse, qui a tenté de divorcer plusieurs fois. Elle raconte que celui qui est toujours aujourd'hui député de la France Insoumise lui a mis des pressions physiques, des pressions morales, et qu'il n'y a aucun contexte d'agressivité mutuelle. La question que l'on se pose dans les GG, c'est de savoir s'il peut, oui ou non, rester député. C'est Hervé qui veut en parler avec nous, il nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Hervé.
Bonjour à tous.
Quelle est votre opinion, Hervé, dans cette affaire ?
Eh bien, d'un point de vue purement légal, malheureusement, oui. Et après, je me dis simplement que, pour M. Quatennens, il n'est pas plus enclin à devoir quitter l'hémicycle, que ne l'est M. Coquerel, qui est soupçonné d'harcèlement, que M. Abad, que M. Darmanin, etc., etc. Malheureusement, il y a une liste énorme de gens. Si on parle des affaires sexuelles, il y a les affaires de détournement de fonds. Enfin, il y en a partout, malheureusement, dans tous les partis.
Alors, Hervé, il y a quand même une différence, c'est que là, il va être reconnu coupable. Là, on aura une condamnation. Contrairement aux personnes que vous avez citées.
Les autres sont présumés innocents.
C'est une condamnation qui ne le soumettra absolument pas à une illégalité.
Vous avez raison.
Oui, mais il y aura une condamnation. Là, vous citez des personnes qui, pour chacune, ont nié les faits. Donc, il faut respecter la présomption d'innocence dans un état de droit.
Il y a ces gens qui ont nié les faits, mais il y a aussi plein de gens qui sont élus, qui ont déjà été condamnés pour des choses qui ne les ont pas soumis à l'éligibilité et qui ont été élus.
C'est autre chose. C'est autre chose, vous mélangez un peu tout, pardon de vous le dire Hervé,
Pour moi, le vrai drame dans cette histoire, si c'en est un, c'est plutôt pour la LFI en elle-même, parce que c'est elle qui perd toute crédibilité. Monsieur Quatennens, qui reste député ou pas, c'est un détail entre guillemets dans l'histoire. Par contre, le fait que LFI, qui se présentait comme défenseur des droits humains et des femmes, perd toute crédibilité en le laissant chez eux.
Vous dites c'est un détail, je suis pas tellement d'accord avec vous Hervé, parce que en attendant, il a été élu pour siéger à l'Assemblée nationale et faire la loi. Or là, il est de facto empêché d'exercer cette fonction. Donc ça pose quand même un problème de.
Il n'est pas empêché.
Bah si, on l'a mis en retrait. Alors on l'a mis
par son parti.
En retrait.
Personne ne l'a mis en retrait. Il pourrait continuer à venir s'il voulait. C'est son choix personnel.
Oui, d'accord.
Il est empêché, qu'il est malheureux chez lui, tout ça. Gagne ses 6 000 euros chez lui.
Mais juste, bah, je vous dis ce que je dis.
Bah, c'est ce que
non,
dit
non, mais Hervé a raison. Juridiquement, rien ne l'oblige ni à ne pas venir, ni même à ne pas siéger après. La condamnation ne l'empêchera pas de siéger.
Bien sûr. Mais le seul
choix moral qui devrait être fait, c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un détail. Monsieur Quatennens, pour moi c'est un détail. Le vrai sujet, c'est le parti politique au-dessus. C'est la LFI. Et le fait que la LFI ne l'ait pas exclue en disant qu'il reste, qu'il siège ou pas, peu importe, il n'est plus chez nous, il ne représente plus nos valeurs. C'est ça le vrai sujet.
Parce qu'ils sont, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont divisés. Mais parce qu'ils sont divisés. On le sait. Il y a une grande division. Les députés, ils ont beau dire sur tous les plateaux qu'ils se concertent, etc. On sait très bien qu'il y en a qui, depuis le début, voudraient que Quatennens, entre guillemets, dégage. Et puis d'autres, et plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon ou de Manuel Bompard, disent non, ce n'est qu'une gifle, il peut rester, etc. Il sera condamné. Et puis derrière, on passera à autre chose. Voilà. Ça, c'est ce que voudrait Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait de Quatennens un peu son dauphin, Emmanuel Bompard, qui dit ça sur tous les plateaux depuis le début. Et puis d'autres, on le voit bien, ils sont très gênés. Quand vous interrogez Daniel Obono, par exemple, sur cette question, quand vous entendez Manon Aubry, la députée européenne, elles sont plutôt dans l'idée que Quatennens, c'est terminé. Et que l'idéal, ce serait que Quatennens démissionne lui-même de l'Assemblée nationale. Personne ne peut le forcer. Il y a même d'autres qui disent, mais il n'a qu'à se représenter, puis on verra ce que disent les électeurs. Il sera condamné, là, et puis il peut se représenter, et finalement, c'est le juge de paix, ça sera l'électeur. Et peut-être que ça serait la meilleure solution.
Hervé a raison sur un point. C'est que le jeune Tahabouaf.
Bouaf. Ouais, il n'était pas député. Hein.
Non, mais
c'était
l'investiture. Voilà.
C'était autre chose.
Oui, mais.
La LFI ne lui a pas donné l'investiture alors qu'il n'a pas été condamné.
C'est pas le même poids politique.
Il s'est lui-même rendu coupable de rien du tout. Mais justement, c'est encore plus grave ce que tu dis. Ça veut dire que parce que tu as un poids politique, on t'exonère de ta responsabilité.
À l'époque, on ne savait pas que Quatennens.
Laisse-moi. Si je peux terminer,
On ne savait pas qu'Atins avait tapé sa femme.
Aujourd'hui, on le sait.
Oui.
Donc, tu ne donnes pas l'investiture quand tu es soupçonné d'eux, mais quand tu reconnais toi-même, tu es accusé par ta femme et tu reconnais toi-même une violence conjugale, tu restes député. Un deux poids, deux mesures.
Elle a raison.
Sauf que personne ne peut l'obliger à démissionner, c'est ça que je veux dire.
Mais la LFI peut l'exclure.
Kevin.
Il restera député.
Oui,
mais il y a une différence quand même avec Tahabouaf, c'est que Tahabouaf n'était pas encore élu député.
Oui, mais c'est ce que je dis.
Là, il y a quand même un suffrage universel qui a été appliqué, il a été élu député, donc c'est normal, en effet, qu'il attende son jugement.
On
est dans un état de droit.
La France est insoumise.
Je ne parle pas de la loi et de la condamnation.
Je parle de la position. Je dis qu'il y a un deux poids deux mesures, que pour ce jeune homme que je ne connais absolument pas et qu'on ne me traite pas de ci ou de ça, je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs au demeurant, quand il y a une suspicion sans condamnation, sans lui-même qui est reconnu, on ne lui a pas donné l'investiture, mais là, qu'il continue à siéger sous le groupe de la LFI, ça ne gêne pas grand monde. Excuse-moi.
Comme dit Kevin, c'est les règles d'un parti, à la limite, le parti imposerait qui veut. Ils ont le droit d'investir ou pas, c'est leur problème.
Oui,
en revanche, quand il devient député, il n'appartient plus au parti, il appartient à la nation, il est député de la nation.
Mais t'as raison que ça serait pas mal, je trouve, qu'il se représente. Ouais. Qu'il démissionne et qu'il se représente. Et là, au moins, t'as effectivement l'électeur, puisqu'il est une émanation du suffrage universel, et les électeurs lui redonneraient éventuellement sa légitimité.
Ou pas.
Absolument.
C'est Cédric qui va en parler avec nous. Il nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Cédric.
Bonjour les grandes gueules.
Bienvenue dans les GG Cédric. Ouais, alors mon cher Cédric, fidèle des GG depuis longtemps.
Depuis que vous travaillez l'après-midi. Alors, déjà Kevin, j'aurais adoré l'avoir comme prof. Kauter, j'aimerais bien un vélodrome avec elle. Et Marianne, j'espère ne jamais avoir besoin d'un avocat.
Si vous aviez besoin d'un avocat, vous auriez besoin de moi, on est d'accord.
Déjà, moi, Adrien Quatennens, je pense que Alain et Olivier savent que la France Insoumise, c'est tout ce que je déteste. Ça tombe bien. Moi, je tire sur l'ambulance, j'hésite pas. Parce que c'est des donneurs de leçons. À tout va, pour un trombone dérobé, ils vont demander une démission. Donc là, maintenant, il va falloir qu'ils assument un petit peu. Et que, il démissionne, mais il démissionnera pas parce que c'est comme son petit collègue, le steak est trop bon. Il a peut-être un crédit étudiant à rembourser, lui aussi. Donc aujourd'hui, c'est silence radio. C'est encore mieux parce qu'il est payé à rien faire. Donc aujourd'hui, moi, j'attends qu'il démissionne, tout simplement, et qu'il faut que les autres parties.
Il faut attendre le 13 décembre, je pense. Il faut attendre le jugement.
Non, mais qu'il y ait un jugement. C'est bien, mais bon, aujourd'hui, il y a la présomption d'innocence. Elle est dure à sortir, celle-là. Mais bon, et qu'il démissionne s'il est condamné pour les violences conjugales, qu'il démissionne. Moi, je peux me permettre de le dire, je n'ai jamais, mais jamais, je peux juste lever la main sur qui que ce soit. Enfin, je parle sur une femme, sur ma petite amie ou sur ma femme. Jamais. Je préfère partir.
Ah oui. Voilà. Normal.
Quitte à partir. Voilà. Même quand les débats arrivent dans tous les couples, comment le ton commence à monter, bah,
il faut partir.
Je me tais et je vais faire mon sport.
Donc, ouais, bien sûr.
Voilà. C'est, bonne réaction. Parce que on, quelque part, on peut tous avoir des réactions épidermiques, mais non, lever la main, non, comme elle a dit Marianne, enfin, ils me connaissent, si je commence à lever la main, ça peut faire un peu mal. Donc, et puis un mauvais geste, une chute et autres, ça peut aller très très loin, même pour un petit geste anodin. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi j'attends la condamnation, mais il faut qu'il démissionne et que la France insoumise le lâche.
Mais la France insoumise, ce qui peut se passer, c'est un autre scénario.
Ils sont prompts à défendre le voile, oui, et on les entend pas sur l'Iran,
oui, mais Cédric,
et les violences conjugales quand ça les concerne.
D'accord, Cédric. D'accord, Cédric. Sauf que la France insoumise n'a pas le pouvoir de le démissionner. Donc,
du parti déjà.
Mais il sera exclu. Là, il est quasiment là. Donc, s'il est condamné, il sera exclu. Moi, je prends le parti. Non, ils limitent de côté parce qu'ils attendent la condamnation.
Il y a des politiques qui ont été exclus de leur parti avant même d'avoir été condamnés.
Oui, d'accord.
Non, mais là,
le 13 décembre, à mon avis, il va être condamné. Il n'y a pas de suspense. Donc il va être condamné le 13 septembre. À mon avis, dans la foulée, la France Insoumise dit il n'est plus dans notre groupe, on l'exclut, tout ce que vous voulez. Et après, de toute manière, rien ne l'empêchera de rester à l'Assemblée nationale de siéger.
Mais quelle crédibilité tu as?
Après, c'est son problème. Voilà. Après,
franchement, c'est son problème et sa morale. Tu regardes tes électeurs. Et après, vous avez dit quelque chose d'important, Cédric.
C'est une question de morale.
On parle toujours de, oui, ça peut mal tourner, tu peux mourir quand tu prends un taquet. Mais je suis désolée, au-delà de ça, un simple mot, une simple violence verbale et une simple gifle, entre guillemets, simple.
Non mais,
ça te brise à l'intérieur, en fait, aussi. Je veux dire, avant de mourir, avant d'être marqué physiquement, tu as une cassure à l'intérieur.
Attention, Kauter, après les mots, c'est souvent du ping-pong, surtout en tant que Marseillaise. Je pense que.
Une dispute, c'est sérieux, ça existe.
Bon, oui, ok.
On va pas tous finir en prison parce que.
Après, chacun, à un moment, si ça commence à partir trop loin, chacun doit prendre un petit peu ses clics et ses claques et aller se calmer dans son coin.
Absolument.
Voilà, c'est tout. Les mots, encore, bon. Après, c'est effectivement, s'il y a tout un système qui est mis en route d'humiliation verbale au quotidien et autres, bon. Là, on parle d'autre chose, ça s'appelle du harcèlement chez moi. Mais si t'es dans une dispute, il y a des mots qui dépassent parfois la pensée, c'est autre chose. Voilà. Il faut raison garder parce qu'on peut finir à l'américaine. Donc c'est, bon.
Non, mais les disputes, ça arrive. Et vous avez raison. Et alors là, je reprends.
Pas chez vous, Marianne, pas maintenant quand même.
Ça arrive à tout le monde. Moi, je me dispute facilement. C'est dans mon tempérament. Mais vous, là où vous avez raison, et c'est un conseil que tout le monde doit appliquer.
Sortir.
Partez.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Dans ce cas-là, vous allez prendre l'air, parce que c'est le meilleur moyen.
On met son manteau.
C'est le.
Tu vas avoir un coup, tu reviens complètement bourré. Et bravo. Bon conseil, Kauter.
Tu vas dormir après, quand tu es complètement bourré.
Merci, Cédric. À bientôt. À bientôt dans les GG. À bientôt avec nous sur RMC, dans les grandes gueules. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules. On a la consultation, on a posé la question quand même, on n'oublie pas. Après les dernières révélations, Adrien Quatennens peut-il rester député? C'est quand même un nom.
C'est clair.
Écrasant. Hein.
Un nom à plus de 80%.
L'exemplarité de ceux qui gouvernent.
Il y a un peu de morale que l'on glisse dans cette histoire aussi. Oui, et de responsabilité individuelle.
Et d'exemplarité.
Et puis je dis ce que je fais, c'est ce que je dis aussi.
C'est ça.
Dans un instant, c'est le retour des indiscrets du service politique d'RMC. Les festivals de l'été en 2024, vous savez, à cause des Jeux Olympiques, est-ce qu'ils vont pouvoir se tenir ou pas? Parce qu'on aurait besoin des forces de l'ordre pour les JO. Donc, ça a l'air bien compliqué à gérer. On essaie de faire du en même temps. C'est pas simple. On vous raconte les coulisses de ces histoires dans un instant.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, sur RMC, RMC Story, Kauter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère, l'avocate Marianne Soubré, le professeur d'histoire géographie Kevin Bossuet. Il y a eu un compliment tout à l'heure. J'aurais aimé vous avoir professeur d'histoire géographie.
J'aurais aimé l'avoir comme élève. Alors, je ne le connais pas, mais bon, s'il m'aime bien, je l'aime bien. Voilà.
Je crois que tu es un peu trop jeune pour, d'après l'âge de Cédric.
Mais je donne toujours des cours, s'il veut.
En particulier.
Bien sûr.
Oh là là.
Mes amis, il est 10h41, donc on dit aussi 11h-20 et on y va pour les indiscrets, c'est le retour.
RMC les grandes gueules.
Les indiscrets.
Les indiscrets, le rendez-vous du service politique d'RMC avec son chef, Jérémy Trottin. Bonjour.
Bonjour Alain, bonjour les GG.
Le ministère de la Culture tente de sauver les festivals de l'été 2024, un temps menacé par les JO. Que se passe-t-il en coulisses alors ?
Oui, parce que vous vous souvenez, Gérald Darmanin avait lui-même enterré tous les festivals de l'été 2024 en raison de la sécurité nécessaire à mettre en place pour les Jeux Olympiques. C'était bien sûr sans compter sur la levée de boucliers du monde de la culture, mais aussi du ministère de la rue de Valois. Après des discussions avec l'Élysée, le gouvernement cherche désormais à préserver un maximum de festivals. Des réunions hebdomadaires ont lieu à Matignon pour affiner le dispositif. Les festivals de moins de 3000 personnes ne font plus du tout partie de la liste de ceux qui pourraient être interdits ou reportés. Et les choses sont en train de s'organiser pour les grands événements.
Alors comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre ?
Alors, selon nos informations, le gouvernement a élaboré un calendrier en plusieurs phases. Alors, attention, c'est un petit peu compliqué, assez précis.
Usine à gaz. Usine à gaz.
Est-ce qu'il y a des couleurs vertes et rouges ?
Pas encore, mais bon, on va parler de rouge écarlate, tout ça. Mais bon, attendons d'avoir la copie finale. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que durant la première période, avant les Jeux Olympiques, le ciel va s'éclaircir sur la culture. Les grands événements seront maintenus. Et ce, malgré le passage de la flamme un peu partout en France. Cela pourrait donc passer, par exemple, pour les Eurocannes de Belfort ou le Hellfest, même s'il faut encore rester très prudent.
Donc en juillet, en fait.
En juillet. Deuxième phase, cette fois, c'est entre le 18 juillet et le 11 août. Dans cette période, il y a bien sûr les épreuves et c'est là que ce sera particulièrement compliqué. En raison de la sécurité et des forces de l'ordre qui sont donc mobilisées sur les épreuves et à proximité, il n'y aura pas de festival. Les vieilles charrues pourraient donc devoir avancer leur date et les discussions sont actuellement en cours à ce sujet. Et puis, ça restera aussi très compliqué assez longtemps parce que après les Jeux Olympiques, il y a aussi les Paralympiques qui tombent en même temps que la rentrée scolaire. Donc, c'est une inquiétude particulière. Et durant cette période, quasiment jusqu'au 8 septembre, là aussi, il y aura un certain nombre d'événements culturels, cette fois surtout en Ile-de-France, qui n'auront pas lieu. L'objectif de ce plan du gouvernement est bien sûr d'éviter tout débordement, mais aussi acte terroriste pendant les JO, tout en préservant la culture.
Donc finalement, ce sera un moindre mal pour la culture.
Oui, beaucoup moins que ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines. Et selon l'entourage de la ministre de la Culture, Hiba Abnoumalak,
ils ont fait peut-être exprès.
Ils ont peut-être, oui, je sais.
Peut-être un jeu de rôle entre Darmanin et la culture.
Oui, je pense qu'ils auraient pu éviter cette polémique aussi avec les élus qui sont montés au front, les présidents des festivals. Enfin bref, c'est quand même assez costaud, puisque c'est un secteur économique très important. En tout cas, a priori, le festival d'Avignon qui a été un peu cité à l'époque devrait être sauvé, même s'il y aura sans doute quelques ajustements. Ce sera en revanche plus compliqué pour le festival intersectique de Lorient, par exemple, qui dure une dizaine de jours au mois d'août. En tout cas, le gouvernement refuse pour le moment. Bien sûr, et qui vient avec des gens qui viennent d'un peu partout en Europe. Et donc, bien sûr, c'est un brassage. Et il y a aussi des concours et puis ça rapporte aussi de l'argent aux communes, aux régions. Par exemple, le Festival des Francopholies, en termes de retombées économiques, c'est 15 millions d'euros. Donc, ce n'est pas rien. En tout cas, le gouvernement, pour le moment, reste encore très prudent. Il dévoilera sa copie définitive d'ici une dizaine de jours ou au 15 décembre maximum. Mais il y aura peut-être, malgré tout, des sacrifiés. Ce ne sera peut-être pas les événements culturels, mais des événements plus festifs, purement festifs, notamment les grandes fêtes du Sud-Ouest. On pense à Dax, Mont-de-Marsan ou Bayonne, qui nécessitent la présence d'importantes forces de sécurité. En tout cas, ces événements-là, eux, sont toujours en suspens.
On fera des chèques. On va indemniser les villes.
J'entends bien, mais c'est vrai que tout le monde n'aime pas le sport. En fait, les gens ont droit aussi d'avoir justement des férias ou alors des événements culturels, de la musique. Puis ça fait vivre énormément de gens. Donc il va falloir qu'ils se débrouillent, parce que même les férias Bayonne, c'est énormément de personnes.
C'est Kevin, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas tout faire en France. On a dû anticiper, en fait.
Mais on aurait dû évidemment anticiper. Si on n'avait pas les moyens d'organiser ces Jeux Olympiques, il n'aurait pas fallu les organiser, tout simplement. Parce que là, on s'en prend à des fêtes qui font vivre tout un tissu local. On s'en prend à des fêtes relatives notamment à notre identité, relatives à notre culture. Ce n'est évidemment pas acceptable. Moi, je ne comprends pas que ce pays, qui est la 6e ou 7e puissance du monde, soit incapable d'organiser correctement des Jeux Olympiques. Ou alors, on voit les choses de de manière beaucoup plus petite. Enfin, c'est toujours grandiloquent, des beaux discours, vous allez voir, ça va être formidable. Et résultat, on est incapable d'organiser cela. Mais encore une fois, ça participe au déclin de notre pays.
C'est comme tu l'as rappelé, un secteur économique qui est important, mais c'est un secteur économique et c'est un secteur tout court qui est extrêmement fragile et de plus en plus fragilisé. Et j'ai peur que, malheureusement, pour certains petits, entre guillemets, festivals, ça soit les.
Tu vois, ils ne seront pas touchés. Alors. Pas touchés, c'est vraiment les grands événements.
Oui, mais on va faire des chèques. Ça va leur porter encore un coup, tu vois, qui est dangereux.
Non,
mais,
Emmanuel Macron fera des chèques, des aides.
Non, mais les chèques, je rappelle quand même que les JO, on te les donne quand tu présentes un dossier de faisabilité.
Oui.
Et ça a été donné, les Jeux Olympiques 2024, en 2017. Ça fait donc. Ça fait 5 ans.
Donc, on essaie de risque terroriste.
En 5 ans, ça te laisse le temps de dire aujourd'hui, les JO, c'est une machine énorme. Que ça tombe pendant l'été, puisqu'on a demandé la date, donc on se doutait bien que les festivals, ils seraient là. Ça te laisse 5 ans pour recruter des policiers.
Sauf que
ça, tu vois, pour lancer un plan massif.
Ouais, sauf que visiblement, ils ont du mal à recruter des agents de sécurité. C'est un casse-tête comme d'autres secteurs. Et puis, ce sont un peu, ils ont rajouté une difficulté. Ils veulent à tout prix faire une cérémonie d'ouverture sur la scène, au lieu d'être dans un stade. Oui, et le fait d'être donc à l'air libre dehors sur la scène, il y a deux rives à sécuriser, et ça va prendre tous les moyens de sécurité. Peut-être que là, on a été trop ambitieux.
Non, le problème, c'est qu'on a affaire à des politiques qui sont bornées. Et en fait, c'est à celui qui veut avoir raison sans aucun bon sens. Effectivement, organiser ce type de manifestation au bord de la Seine, c'est limite suicidaire et c'est limite une mise en danger des libertés.
Ça inquiète beaucoup Darmanin, ça, vous le savez.
À un moment donné.
Ça inquiète beaucoup Darmanin,
c'est sûr. Et les responsables de la sécurité, ils devraient mettre un veto en disant là, c'est pas possible. On le fait dans un stade, je comprends pas.
Il nous a parlé de drones qui pourraient attaquer la cérémonie. Il l'a dit ouvertement.
Oui, menace terroriste sur les drones.
Qui flippe. Il dit il faut plus aucun festival parce que j'aurai besoin de tout le monde.
Oui, mais pour moi, il est plus logique d'imposer en termes de sécurité de faire ça dans un lieu clos comme un stade plutôt que de fracasser les festivals à droite et à gauche, tu vois, dans toute la France.
Là, l'objectif quand même, c'est d'en préserver au maximum.
Oui, mais d'en préserver au maximum,
la première version,
il y aura des
quasiment zéro festival.
Et donc, dans un souci de sécurité et de bon sens, tu vois, je ne comprends pas que Gérald Darmanin n'impose pas cette cérémonie dans un lieu fermé.
Merci, monsieur Jérémy. Trop un plaisir de te retrouver pour les petits indiscrets politiques. On y va maintenant pour le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Avec monsieur Louis Gerbier. Bonjour, Louis.
Bonjour, bonjour Alain, bonjour à tous. Vous allez bien?
En pleine forme, pense un peu. Je suis un petit peu tard hier avec les maires, mais c'est bien, on est content. Ouais. Là. On les maires que l'on recevra
juste à 11h. Je les ai aperçus, ils sont là, ils sont prêts.
Ils ne se sont pas couchés, paraît-il.
Les lauréats, vas-y.
Alors, aujourd'hui a été dévoilé le questionnaire Miss France, comme chaque année. Donc, on va voir qui pourrait, d'entre vous, qui pourrait être Miss France autour de la table.
Ah.
On va faire deux équipes. Kaouster, Olivier.
Kevin et moi, on est bon. Parce que
exactement.
Il va savoir répondre.
Donc, j'ai 10 questions qui font partie du questionnaire officiel. Hein. C'est les questions de cette année. Ah. On y va. Et ceux qui ont le plus de points, vous gagnez toute ma gratitude.
Il n'y a pas une écharpe, c'est dommage.
Je voulais prendre un diadème,
moi,
mais.
Écharpe, je joue.
Allez, let's go. Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre?
Charles III.
1-0, ça va aller vite, attention. Oh, quelle chanteuse mondialement connue a sorti un nouvel album Renaissance en 2022?
Céline Dion.
Beyoncé.
Lady Gaga, Dua Lipa, Rihanna ou Beyoncé? Beyoncé.
Bravo.
Ah, c'est serré, hein.
Et Miss Marseille contre Miss Toulouse.
Voilà.
Non, mais on s'aime tous.
Art et culture. De quelle star américaine le film Netflix Blonde retrace-t-il la vie?
Marilyn Monroe.
Eh oui, Marilyn Monroe.
Avantage,
attention. Ouais. Hein.
Avantage à Miss Toulouse.
Les hommes, là, vous participez un peu.
C'est un concours de Miss.
Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac?
Edmond Rostand.
Bravo. Encore un point pour Miss Toulouse.
Voilà, là, on croirait Espagne-Costa Rica. Une paire de chaussures est soldée à 35%. Son prix original est de 200 euros.
Merde.
Combien coûte la paire de chaussures après
euros.
La remise?
165 euros.
170, 165, 130 ou 70?
165.
Faux.
170.
Ah non, il a raison, parce que c'est 200 euros.
Attends, 200.
J'avais que les maths, ça allait.
Ça fait 140 euros. Ah non, 140, combien t'as dit?
Alors. 35% pour une paire à 200 euros.
Eh ben vas-y, c'est quoi les chiffres?
C'est quoi la proposition?
170, 165, 130 ou
130.
130. Bravo. Double point, j'accorde.
Miss Toulouse se détache.
Faudra suivre les scores en régie parce que moi je suis perdu déjà.
On est largement devant.
Que signifie la... Attention, il y a des propositions. Que signifie l'adjectif omnipotent? Qui sait tout, comme Charles Consigny?
Non.
Qui possède toutes les richesses?
Non.
Qui
présente
tout.
Qui est tout puissant?
Qui est tout puissant? Qui peut tout?
Bravo. Lequel des mots de la langue française existe? Omnubilé, omnibulé, omnibulé, omnibulé.
Omnubilé, omnubilé.
Bon, c'était la réponse A, c'était la première.
C'est omnubilé.
Exactement.
Comment tu l'écris?
O-B-N-U-B-I-L-E-R.
Ouais, c'est bien un B, omnubilé.
Voilà, un B comme Bernadette.
Avec un M.
Exactement. Allez, encore deux. La date de la constitution de la 5ème République
1958.
Voilà.
Ah, Miss quoi, Miss
Seine-Saint-Denis.
Miss Seine-Saint-Denis.
Miss Histoire Géo.
Miss Histoire Géo. Et on finit avec la dernière. Elle fait partie aussi du quiz et j'en suis très très fier. Comment s'appellent les habitants de Châteauroux? Les Castelrouxois, les Castelroussins, les Châteauroux-Soix ou les Châteauroussins?
Les Castelroux-Soix.
Les Castelroux-Soix. Non, Marianne, là je suis déçu là. C'est les Castelroux-Soix. Bravo, Cauter.
Ah, Miss Marseille revient.
Mais personne va à Châteauroux.
Oh là là.
Alors, mais il vient de Châteauroux.
Alors, c'est une victoire pour Cauter et Olivier.
Ça
comptait 12 points. Voilà.
La question.
Miss Marseille devient Miss France.
Non, mais attends.
Donc ça c'est le concours pour tout
ça. C'est le concours. Non mais vous êtes pas mal, hein, ça va. C'est,
donc ça fait partie des questions officielles.
Exactement.
Qui sont posées au Miss, mais qui sont posées à quel moment au Miss?
34 questions avant. En 40 minutes en ce moment.
En
là, cette semaine.
40
minutes. Voilà.
Nous on a fait en 2 minutes.
Attends, on a fait 10 questions en 2 minutes.
40 minutes, 34 questions en ce moment.
C'est les
Et si le résultat est médiocre, il n'y a pas plus de précision sur le nombre de bonnes réponses. C'est juste médiocre, grosso modo. Voilà.
Si
tu es exclu. Donc il faut avoir un minimum de culture pour être Miss France aujourd'hui. Et voilà quoi.
Au moins 17
alors,
quoi.
Qu'est-ce qui a bien changé Miss France?
Qu'est-ce que vous pensez de ce petit questionnaire de culture générale alors?
Ah, pourquoi pas. Moi j'ai rien contre les Miss, moi ça me fait rigoler.
Pour être Miss, qu'on passe un concours de petit concours de culture générale comme ça.
Bah oui, c'est normal.
Tu es une base, tu vois.
Oui, c'est pas plus mal, franchement.
Est-ce que c'est pas tellement là-dessus qu'on juge au final.
Non, mais c'est important parce que tu vois, c'est aussi bon. Elle est
ça la vraie question.
Ça, on a mis Salwa que je vous ai présenté hier, qui est coach vocal. Donc la semaine dernière, on était avec un label et il y avait une petite de 13 ans qui est un futur espoir. Et ils veulent que Salwa le... Je la salue d'ailleurs, si elle nous regarde, la coach, elle a dit, moi, pour coacher une enfant de 13 ans, je veux autour de la table le corps enseignant, je veux le collège, je veux les deux parents, le consentement des deux parents, et je veux l'équipe pédagogique. Non, non, parce que si tu veux, elle dit, on ne va pas la lancer dans du champ, si ça ne marche pas, après, tu ne sais pas lire quoi. Donc, qui est minimum, moi, je trouve que c'est bien.
Mais Louis a posé la bonne question.
Mais oui, est-ce que tu as un concours en maillot de bain pour intégrer Polytechnique?
Bah oui,
c'est pas complètement fou non plus.
Bah ouais, chacun sa place.
Enfin que...
Édito.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, à 11h20, doit-on réautoriser les terrasses chauffées pour les restaurateurs, pour les cafetiers? Parce que depuis le 31 mars, les restaurateurs ne peuvent plus chauffer les terrasses, sauf si elles sont couvertes et fermées. Quand c'est couvert et fermé, ça fait un peu moins, moins terrasse quand même.
On appelle ça un intérieur.
Aujourd'hui, les municipalités n'en veulent pas pour une raison écologique, sauf que les restaurateurs disent, pour nous, c'est quand même un manque à gagner. Est-ce qu'on rouvre les terrasses chauffées? Oui ou non? Une équipe oui, Kevin et Olivier. Une équipe non, Cauter et Marianne. Et on vous attend au 32-16. Mais dans un instant, nous recevons la maire de Ghana. Nous recevons Mickaël Paco, adjoint en charge de la sécurité à Mions, pour partie des villes qui ont été couronnées hier au Grand Prix des maires.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.